就是金，老金了。
Ali Diabaté Tajoudine, directeur de la division électorale de la mission des Nations Unies au Congo, est celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Nous lui disons merci d'être venu.
Merci.
Dans notre entretien à Ali Diabaté, nous allons parler de la contribution de la MONUC à travers sa division électorale aux élections de 2006 en RDC. Nous ferons aussi le point de votre riche expérience dans le domaine des élections en Afrique. Commençons par découvrir votre personne. Vous voyez le jour le 31 décembre 1954 à Dapaong, au Togo. C'est à combien de kilomètres de Lomé, la capitale?
À 657 kilomètres, c'est la dernière ville du Togo au nord.
J'espère avoir bien prononcé, hein?
Bien.
Dapaong.
Dapaong, c'est ça. C'est la dernière ville.
En Afrique, chaque nom a une signification. Le vôtre signifie quoi, Ali Diabaté Tajoudine?
Ali, comme je suis musulman, vous savez bien que Ali est un parent du prophète Mahomet. Tajoudine en arabe veut dire la couronne de l'islam. Mais Diabaté est un nom mandingue et nous sommes des griots et on retrouve le Diabaté partout en Afrique de l'Ouest, l'origine étant le Mali.
Mais comment vous, Togolais, vous avez un nom mandingue originaire du Mali?
Tout simplement parce que l'histoire montre que l'empire mandingue, qui est collé à l'empire du Gao, se trouve en Afrique de l'Ouest et était très étendu, couvrait une grande sphère. Ça ne couvrait pas le Togo, mais ça couvrait jusqu'au Burkina et nous, nous sommes les voisins du Burkina.
En 1979, vous obtenez votre licence de philosophie et sciences sociales appliquées à l'université de Lomé au Togo. Puis en 1985, vous devenez docteur en épistémologie de l'université Jean Moulin, Lyon 3 en France. Comment expliquer votre revirement vers le domaine électoral?
Je suis venu au niveau des élections en raison de mes activités d'abord en tant que responsable d'une ONG qui s'appelait le COPED et qui était une ONG chargée justement de la promotion de l'état de droit. J'étais également en tant que étudiant assez activiste dans une organisation qui s'appelait le mouvement des étudiants pour les droits de l'homme. Et lorsqu'il s'est agi de choisir en 94 9 membres pour tout le Togo à des accords qu'on appelle l'accord de Ouaga, j'étais de ceux qui ont été choisis pour être membre de la première commission électorale du Togo. Et c'est comme ça que
Et c'était qui vous a donné goût aux élections?
Oui, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé par apprendre, parce que nous faisions des élections, mais c'était un peu comme au Congo, puisque nous étions sous le régime des ADEMA, et c'était des élections qui n'étaient pas bonnes.
Avec un parti unique.
Des élections, disons, qui étaient élaborées préalablement, des candidats qui étaient choisis plutôt qu'élus.
Alors, vous l'avez dit, de 1994 à 2004, vous êtes président de la Commission électorale nationale indépendante du Togo. Quelle était votre mission?
C'est à peu près la même mission que la commission électorale de la RDC, mais la commission électorale de la RDC a plus d'indépendance, parce qu'au niveau du Togo, la commission électorale organisait au niveau de la conception, mais toute la logistique était faite par le gouvernement. Ça, c'est un point. Deuxièmement, la commission électorale n'avait pas un certain nombre de prérogatives, en l'occurrence dans la désignation des observateurs internationaux, etc., si bien que c'est une commission qui était moins indépendante que celle que nous avons connue au Congo.
Alors, de 1985 à 2002, vous travaillez comme professeur à l'université de Lomé. Qu'est-ce qui vous attire aux Nations Unies?
Ce qui fait que je suis allé aux Nations Unies, c'est que je, tout en étant enseignant à l'université, dans trois domaines d'ailleurs, j'enseignais l'épistémologie au département de philosophie, j'enseignais au département des sciences et d'éducation, mais j'enseignais la sociologie urbaine dans une école africaine qui s'appelle l'ERMO, qui est une école d'urbanisme. Et je cumulais cela avec mon travail de secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, ce qui me permettait d'avoir non seulement des relations, mais de savoir quelles étaient les filières par lesquelles on pouvait entrer dans une organisation internationale. Mais j'avoue que c'est à travers le FBI que je suis arrivé aux Nations Unies.
Que vous avez dirigé à un moment de votre vie.
Justement, pendant après les élections en 1994, j'ai été choisi par le FBI comme représentant résident dans un certain nombre de pays, notamment la Guinée, le Mali, etc. Et ça a été le tremplin pour aller aux Nations Unies.
Radio Capine, grand témoin.
Ali Diabaté Tajudine, directeur de la division électorale de la mission des Nations Unies au Congo, est celui que grand témoin reçoit aujourd'hui. Ali Diabaté, avant de parler du moment où vous arrivez en RDC, nous allons scruter votre expérience en matière électorale. Parlez-nous des pays dans lesquels vous avez participé au processus électoraux.
Bon, en dehors de mon propre pays, le Togo, qui n'est pas un modèle, il faut le dire, hein, en matière d'organisation de bonnes élections, ou alors qui est un modèle négatif jusqu'aux dernières élections qui ont été bonnes. En dehors de cela, vous avez la Gambie, vous avez le Bénin en 1995, vous avez le Maroc, Haïti, la Guinée-Conakry, le Tchad, Madagascar, les Comores, bon, je ne sais pas si j'en oublie, mais, mais j'ai suivi également un stage dans 10 États des États-Unis. Vous savez, les États-Unis sont composés d'une cinquantaine d'États, et je suis allé voir le système électoral dans moins de, voilà, à travers au moins deux villes dans chacun de ces 10 États.
Chaque pays ayant sa particularité, que peut-on retenir d'après vous des élections en Afrique de manière générale, quand on sait que certaines personnes pensent que la démocratie n'est pas adaptée à ce continent?
Oui, il ne faudrait pas confondre, à mon avis, les élections et la démocratie. Les élections sont une condition de la possibilité de la démocratie, mais les élections ne sont pas la démocratie. Parfois, il y a eu de très bonnes élections qui ont débouché sur des systèmes qui ne sont pas démocratiques. Souvenez-vous que Hitler a été élu démocratiquement, hein. Et donc, c'est pas... Les élections, encore une fois, permettent de pouvoir mettre en place un certain nombre d'institutions, un certain nombre de structures qui, lorsqu'elles sont bien gérées, permettent d'aboutir à la démocratie et au développement. Mais je connais des pays, et je pourrais en citer, où à la suite des élections, le résultat a été plutôt négatif. Par contre, j'ai l'impression qu'ici en RDC, à la suite des élections, nous avons un certain nombre d'institutions qui sont en place, qui commence par fonctionner. À mon avis, l'institution par excellence, c'est l'Assemblée nationale, qui fonctionne très bien et qui constitue justement des espoirs.
Alors, nous allons parler des élections en RDC dans un tout petit moment, mais est-ce qu'on peut considérer que les élections, ça peut marcher en Afrique?
Si vous voulez, je vais prendre quelques cas.
Allez-y.
Et ça nous permet de voir. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, où j'étais justement le CTP en 2000. En 2000, les élections étaient techniquement bien organisées en RDC, en Côte d'Ivoire. Techniquement bien organisées. Mais ça n'a pas marché pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y avait un grand problème d'ethnicité. Je ne vais pas employer le mot xénophobie parce que je ne veux pas être partisan dans la prise, mais il y avait un problème. Et ce problème, qui en fait est un problème politique sur lequel se greffe la xénophobie, a fait dérailler totalement le processus au point qu'on est arrivé à l'élection d'un président de la République. Mais vous avez tout ce qui s'est tout ce qu'il y a eu à la suite. On pourrait également prendre le cas de Haïti. Haïti, celui qui a été élu, Aristide, est un prêtre, un homme de Dieu. Il a été élu démocratiquement, soutenu par toute la communauté internationale, mais et par la population, parce qu'il est très populaire à Haïti, Aristide en Haïti. Mais on a vu ce qu'il a, il a fait justement des élections. Nous avons les Comores. J'étais aux Comores comme également c'était ce que j'ai fait ici. Les Comores, c'est un tout petit pays de 500 000 habitants, composé de trois îles. Une des îles ne fait que 40 000 habitants, c'est-à-dire l'université de Kinshasa, mais avec un président de la République. Vous comprenez? Avec sa constitution, avec son président de la République, etc., etc. Et vous avez pu suivre là, tout dernièrement, qu'il y a quelques problèmes avec Anjouan, etc. Par contre, il y a des pays comme le Mali, comme le Bénin, comme la Mauritanie maintenant, où non seulement ça a très bien marché en termes d'élections, mais les élections ont débouché sur sur des structures qui fonctionnent pour le pays. Le Ghana également en est un exemple.
Vous avez signé plusieurs publications se rapportant aux élections et à la politique. À titre d'exemple, les conflits électoraux en Afrique, type et manifestations, les élections et l'armée, le cas du Togo pour ne citer que celle-là. Quelles sont les causes des conflits électoraux en Afrique d'après vous?
Il y a plusieurs causes effectivement de conflits électoraux en Afrique. L'une des causes, je viens de la citer, c'est le fait que généralement les gens ne comprennent pas bien le processus en lui-même et qu'on mélange ethnie et élection. Au lieu de voter les gens sur la base des programmes,
des compétences
et des projets de société, on vote l'homme du terroir. Et ceci, c'est valable même dans les pays où cela marche, hein, à l'exception peut-être du Mali, en Afrique. Quand vous allez en Guinée, par exemple, vous avez quatre Guinées. Vous avez la Guinée du Fouta également avec les Peuls, vous avez l'autre Guinée avec les Mandingues, vous avez la Guinée avec les Soussous, et vous avez la Guinée du Sud avec les forestiers. Et les gens votent. Alors, potentiellement, c'est source de conflit. L'autre source de conflit, c'est l'armée. Et vous avez un certain nombre de pays où l'armée, au lieu d'être une armée nationale, une armée républicaine, ou bien elle est composée de façon, enfin de milices, ou alors c'est une armée qui n'est pas républicaine. Et elle prend fait et cause pour celui qui est au pouvoir et est source de conflit. Il y a également d'autres éléments, mais généralement, ce sont ces deux grands facteurs-là qui en Afrique.
Quel doit être, d'après vous, le rôle de l'armée ou de la police en période électorale?
Normalement, en période électorale, l'armée n'a pas un rôle important à jouer. L'armée va tout simplement sécuriser les frontières. Le rôle de l'armée, ce n'est pas de faire la sécurité intérieure. Que ce soit au Congo ou au Togo, normalement, le rôle de l'armée, c'est de sécuriser les frontières. C'est la police qui a justement un rôle de police, c'est-à-dire faire en sorte que les manifestations soient bien encadrées, que les candidats soient bien
sécurisés,
etc. C'est le rôle de la police nationale. Mais le rôle de la police n'est pas aussi de faire la police du bureau de vote, parce que la police du bureau de vote, c'est le rôle du président du bureau de vote.
Alors, Ali Diabaté Tajuddine, directeur de la division électorale de la MONUC, peut-on vraiment éviter les conflits électoraux en Afrique?
Oui, on peut les éviter. La preuve, c'est que moi, je crois que il y a des pays où on fait maintenant des élections sans trop de conflits. Et d'abord, les élections sont potentiellement conflictuelles. Parce qu'il y a des gens...
Par essence,
puisque des gens sont en train de se battre pour prendre le pouvoir. Le tout, c'est de se battre sans que ce ne soit un combat physique. Sinon, par essence, les élections sont conflictuelles. Maintenant, c'est la nature du conflit qui est le problème. Conflit d'idées, conflit de programme, etc., etc. Alors, comment faire pour que cela ne passe pas d'une confrontation d'idées à des confrontations d'hommes ou d'armes? C'est le problème. Et je dis, ça dépend de la manière dont l'éducation civique est faite pour que les populations... Ça dépend du comportement des dirigeants, parce qu'en réalité,
les acteurs politiques.
Parce que ce qui importe, ce ne sont pas les structures, ce sont les hommes. Ce sont les grands hommes qui font les grandes nations. Et donc, il y a ce comportement des acteurs politiques, il y a la société civile qui peut également contribuer à l'apaisement. Mais il y a enfin les lois. Parce que les lois, parfois, elles-mêmes, potentiellement, amènent à des conflits parce que elles sont légales mais parfois illégitimes et les gens ne se retrouvent pas là-dedans.
Radio Catine, grand témoin.
Il est le directeur de la division électorale de la mission des Nations Unies au Congo, Ali Diabaté Tajuddine, et celui que grand témoin vous fait découvrir. Ali Diabaté, nous venons de parler de votre riche expérience africaine en matière électorale. Parlons à présent de votre arrivée en RDC. C'est en octobre 2003 que vous entrez en fonction comme directeur de la division électorale de la MONUC. Est-ce la première fois pour vous de fouler le sol congolais ou vous avez eu d'autres contacts avant?
J'avoue que c'était la première fois pour moi de venir en RDC, et que je connais très bien, honnêtement, parce que je connais de l'extérieur, parce que je suis togolais. et nous avons à quelque chose près la même histoire après la colonisation, le Congo et le Togo.
Et surtout que le président Mobutu, de son vivant, a beaucoup collaboré avec le président Yadema.
Vraiment, nous étions, comme eux-mêmes le disaient, frères et amis. Nous avons l'authenticité, nous avons l'animation, nous avons le parti unique, etc., etc. Et donc, je connaissais le Zaïre, hein, le grand Zaïre, mais c'était la première fois pour moi de venir en RDC. Et j'ai retrouvé dans ce pays ce que je voyais, c'est-à-dire un très grand pays, et une population tout à fait sympathique. Mais je ne connaissais pas la MONUC. Ce n'est que lorsqu'on m'a dit de venir à la MONUC, c'est la première fois pour moi de travailler dans une mission. Parce que généralement, je travaille aux Nations Unies, mais avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et aussi avec l'UNOS, qui est une des agences. C'est la première fois pour moi d'être dans une mission. Et donc, ça a été ma première expérience.
En 2006, la RDC organise ses premières élections démocratiques. Quelle a été la contribution de la MONUC à travers la division électorale pour la tenue de ces élections?
Je voudrais d'abord dire que l'assistance électorale des Nations Unies en RDC est la plus grande jamais entreprise par le système des Nations Unies depuis la création des Nations Unies. Donc nous sommes la plus grande division, la première, sur le plan temporel comme sur le plan spatial. Et ça, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que votre pays est le plus grand pays que les Nations Unies aient jamais soutenu, même en termes de population électorale, puisque vous dépassez l'Afrique du Sud. Les autres ne sont que des petits pays, l'Afghanistan, le Libéria, etc., le Kosovo, ce sont des petits pays. Donc, je voudrais préciser cela, que la RDC vient d'avoir la plus grande assistance jamais donné par les Nations Unies. Je veux aussi préciser que ce n'est pas la division électorale seule qui a appuyé, c'est tout le système des Nations Unies. Et par tout le système des Nations Unies, j'entends toute la MONUC et le PNUD en l'occurrence, parce qu'il y avait plusieurs projets, notamment le projet APEC, qui se trouvait au PNUD. Mais nous avons travaillé de façon intégrée pour dire que nous étions ensemble et on a mis tout le système des Nations Unies sur une seule chaîne de commandement. Et cela a permis de bien travailler.
Vous avez parlé des dimensions continentales du pays. Citez-nous quelques difficultés auxquelles vous avez été confronté pendant ces élections.
Lorsque je suis arrivé ici, tout le monde m'a dit, Monsieur Diabaté, franchement, partout où vous êtes passé, vous avez fait des élections. Ici, nous pensons que vous êtes venu pour une mission impossible. Et là, ce n'était pas seulement au niveau des acteurs internationaux. Mais même au niveau de beaucoup d'acteurs nationaux, on nous disait que c'est une mission impossible. Mais en réalité, ce ne sont pas les Nations Unies qui ont organisé les élections, ce sont les Congolais qui ont organisé les élections.
Avec le soutien des Nations Unies.
Avec le soutien des Nations Unies. Sans la bonne volonté, sans le travail actif des Congolais, nous n'aurions jamais réussi. Ceci étant, la question, quelles sont les difficultés? La première difficulté, les premières sont d'ordre politique d'abord. D'ordre politique. Nous nous sommes dit, les gens viennent de sortir de Sun City. Mais combien d'accords avaient été signés avant l'accord de Sun City et qui étaient restés lettres mortes? Qui nous disait que ceci ne serait pas lettres mortes? Nous avons constaté que l'UDPS avait signé également à Sun City, mais n'était pas dans le mouvement, avait refusé justement de participer au mouvement. Et alors que l'UDPS, du moins quand nous sommes arrivés en 2003, représentait une force
non négligeable,
oui, qu'on pouvait percevoir. On se disait, si une grande force politique refuse de contribuer, de participer au processus, est-ce qu'il n'est pas voué à l'échec? Ça, c'est sur le plan politique. Mais également sur le plan des lois. Est-ce qu'on aurait des lois qui permettaient de pouvoir obtenir les élections? L'une des lois qui nous a sauvés et qui a sauvé le Congo, c'est la loi sur la nationalité. Parce que, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est le problème de la nationalité et de l'identité du pays. Mais ici, la loi sur la nationalité, qui a devancé la loi électorale, a été une très bonne chose, ça a été une des difficultés qui a été levée. Mais également, la durée de la transition. On demandait à un pays sans infrastructure, enfin avec des infrastructures suffisamment dégradées, où les gens n'avaient pas de carte d'identité, n'avaient pas des cartes d'électeur, de tout recommencer et de tout faire à 2 ans évidemment, avec cette ouverture d'une autre année. Le temps était très, très court, et ça, c'était un défi. Ces trois points ne sont que des défis d'ordre politique. Mais il y a des défis d'ordre technique, si vous voulez, on pourrait aussi en parler.
Quelles leçons vous avez tirées des élections en RDC?
Leçon que nous avons tirée, il ne faut pas revenir sur les défis techniques, parce que ça me paraît également important, avant de venir aux leçons.
Allez-y.
Oui, c'est que les défis techniques, c'est quoi? C'est l'enregistrement des électeurs. Comment enregistrer les électeurs? Vous avez vu ce que nous avons pu faire. Non seulement ça a coûté 110 millions de dollars, mais les gens pensaient que les Congolais ne seraient pas capables d'utiliser des ordinateurs, etc., et d'obtenir des cartes d'électeurs avec des photos de façon digitalisée. Cela a été relevé. Ça a été également comment collecter les candidatures, parce qu'il y avait beaucoup de candidatures dans les 64 CLCR. L'éducation civique pour que les gens comprennent que nous ne sommes plus sous l'époque du mongoutisme, mais qu'il y avait l'air qui devait changer, etc., etc., démocratique. Je vous avoue que le paiement des agents électoraux, ils étaient à environ 250 000 à travers tout le pays, et il fallait les payer. Ça a été un grand challenge. Il y a la sécurité, surtout à l'Est, qui était un challenge, mais il y a la logistique, parce que la MONUC a dû utiliser environ une centaine d'avions et hélicoptères pour pouvoir le faire. Mais ce faisant, la MONUC n'a pu transporter le matériel que pour amener dans les 210 centres, c'est-à-dire les 166 territoires, 145 plus les villes. Et ce sont les Congolais qui ont transporté
à Lausanne, à Dosier, par Erol,
etc. Il faut vraiment rendre hommage aux Congolais là-dessus, parce qu'on exagère. Je suis de la MONUC, mais nous exagérons souvent l'appui logistique externe, sans voir tout ce que les Congolais ont fait pour transporter de 210 endroits tout ce matériel jusqu'à 12 000 endroits et créer 50 000 bureaux de vote. Je voulais d'abord parler de ces défis techniques, qui sont vraiment des défis qu'on ne retrouve pas à la fois dans un certain nombre de pays, qu'on retrouve ici, qui ont été surmontés, avant d'en venir aux leçons.
Alors allons-y aux leçons.
Voilà. En ce qui concerne les leçons, la première chose que je pourrais dire, c'est que le peuple congolais avait soif ces élections. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord rétablir la légitimité, parce que le peuple en avait marre de la guerre. Et parce que le peuple veut le développement. Et le peuple s'est impliqué. Première leçon, donc. Il en avait soif. Et il s'y est impliqué. C'est un succès et un miracle du peuple congolais. Deuxième leçon, c'est que le système des Nations Unies a mis en place ce que nous avons appelé la structure intégrée, qui est devenu désormais le modèle qu'on veut utiliser dans beaucoup d'autres pays. Structure intégrée. Vous avez quelqu'un, qu'il soit de l'APEC, etc., travaillait sous la direction du directeur de la division électorale. Moi, je pouvais dire aux gens, là-bas au Tunis, voici ce qu'il fallait faire, et ils le faisaient. Tout comme, au sein de la MONUC, la structure était intégrée, les policiers travaillaient pour nous, les DOI travaillaient pour nous, etc., etc. Deuxième leçon qui sert. Troisième leçon, c'est que nous avions mis en place des structures comme le comité technique et le comité de pilotage, qui sont devenus également des modèles. Quatrième leçon, c'est que l'enregistrement des électeurs au Congo est devenu le modèle qui s'exporte partout. Et le Togo l'a utilisé, beaucoup d'autres pays sont en train de le demander.
Alors, je crois que les leçons, il y en a beaucoup. Nous allons nous arrêter à celle-là. Vous venez de passer 4 ans en RDC. Qu'est-ce que vous retenez de la culture congolaise, M. Diabaté?
La culture congolaise est riche et très variée. Mais je crois que de façon indubitable, s'il y a au niveau de la culture quelque chose que les Congolais exportent le plus, c'est la musique.
Et vous aimez la musique congolaise?
J'aime la musique congolaise, j'aime surtout la rumba, je n'aime pas l'ndombo. Mais j'aime danser la musique congolaise.
Y a-t-il un artiste ou une chanson qui vous fait vibrer quand vous l'entendez?
Vibrer, pas forcément, mais j'aime entendre deux morceaux. Le premier, c'est Mokolona Kokufa. C'est un vieux morceau de taboulé. Et puis le second, c'est Mabélé. Et je crois que ça a été chanté par Madilou. Ces deux morceaux sont, à mon avis, des morceaux fétiches. Évidemment, toute la musique de la jeunesse congolaise. Hein. Fally Ipupa, Koffi Olomide, tout cela sont de très bonnes musiques.
Il faut dire à Lydia Baté que vous allez quitter la RDC. Vous allez travailler dans quel pays?
Je suis nommé le numéro 2 de la division électorale des Nations Unies pour le monde entier maintenant. Donc, c'est dans tous les pays du monde.
Alors, pour vous souhaiter un bon départ et plein succès dans votre carrière, l'équipe de grands témoins, Mimi Kindou et Kevin Kouté, vous dédie la chanson « Mission officielle » de Saboulé Rochero.
Je vous remercie.
Lobana banana kemo sana na kozonga. Adio, yo. Na kei ukanda kovola miziki ya Kongo. Mosala nzamba ponelanga, anga mawananga. Na matina peko na matima soa ya liwa. Na teki moli monanga, mona lukumu ya Kongo. Na kitika pala baye ikotu na soki na pala. Tazali mbali ya tete, tete mama na banananga. Andambe oka na lalina butu na loti pipi pipi mwana nalinga alobina nga papa yambi lokola na miboma
Ali Diabaté Tajudine, directeur de la division électorale de la MONUC. Vous parlez un peu lingala? Alors, pour vous et pour tous les auditeurs qui nous suivent, dans cette chanson, Taboulé Rochero est en train de demander à sa femme d'annoncer aux enfants qu'il va en mission de service. Et c'est un peu votre cas, hein. Vous avez laissé deux enfants, vous êtes marié et père de deux enfants qui sont où?
Le fils est actuellement en France et ma fille est mariée au Canada.
Alors, vous les avez laissés pour aller en mission de service comme Rochero.
Merci.
Alors, continuons à suivre la chanson.
Adios, tete, inasambeli osuka ya mwasuveni.
Merci à l'équipe de production de Grands Témoins pour cette chanson, mission officielle de Taboulé Rochero. Ali Diabaté et Tajudine, il nous reste quelques minutes pour clôturer cet entretien. La RDC est en train de préparer les élections locales. Vous le savez, ces élections vont mobiliser plus de moyens que les présidentielles et les législatives de 2006. Est-ce que la MONUC va continuer à soutenir la RDC dans ce processus?
Nous avons déjà un mandat passé de façon préliminaire pour pouvoir le soutenir et tout est mis en œuvre pour qu'on ait un mandat plein, pour que la MONUC puisse soutenir ces élections locales, parce qu'on ne peut pas construire une maison, avoir les murs et le toit, sans que la fondation ne soit solide. Et la fondation des élections, la fondation des institutions, c'est tout ce qui se passe à la base.
Et maintenant que vous allez quitter la RDC, avez-vous un message à tous les futurs électeurs des élections locales, aux acteurs politiques?
Oui, le grand message que j'ai, c'est de dire que le Congo constitue la pierre angulaire de l'Afrique. Constitue la pierre angulaire potentielle qui peut, avec la volonté politique, avec le changement de mentalité, avec l'appui aussi bien des Congolais et de la communauté internationale, cela peut faire en sorte que le Congo permette aux Congolais et aux Africains d'avoir un avenir radieux.
Merci beaucoup Ali Diabaté et bon travail à New York.
Merci.
Grand témoin RCV Ali Diabaté Tajoudine, directeur de la division électorale de la MONUC, à la réalisation Kelly Nkouté et à la mise en onde Mimi Kindou. Cette émission est disponible sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net, où vous pouvez également voir les photos de nos invités. Bonne suite au programme sur Radio Okapi.